Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Jour de vote en France, le premier tour de l'élection présidentielle. 12 candidats sont en lice, premières estimations attendues à 20h. À 17h, le taux de participation était de 65%. Le président tunisien annonce que les familles des personnes tuées et blessées lors de la révolution de 2011 seront indemnisées. Une manifestation ce dimanche à Tunis, à l'appel notamment du mouvement Ennahda, un rassemblement pour exprimer son rejet de la décision de dissoudre le Parlement. Gros plan dans votre journal sur un projet d'échange interculturel entre jeunes libanaises et français autour de la lecture. Une initiative de l'association culturelle Le Kobiak, basée dans les Bouches-du-Rhône. Nous écouterons l'une de ses responsables, Marie-Hélène Bastianelli. Le 46e jour de la guerre en Ukraine, les autorités se disent prêtes à livrer une grande bataille dans l'est du pays. Le dimanche des Rameaux, le premier jour de la semaine sainte pour les catholiques et les protestants. Il précède le dimanche de Pâques. Notre invité sera le père Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, ancien directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Homero Marongu Peria, auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans » aux éditions de l'Atelier, extrait dans votre journal. Le premier tour de l'élection présidentielle en France, la participation à 17h s'élevait à 65% en France métropolitaine. C'est moins qu'en 2017, il était alors de 69,42% à la même heure et au premier tour de la présidentielle de 2012, il était de 70,59%. En 2007, ce taux s'élevait à 73,63% et en 2002, il était de 58,45%. 12 candidats sont en lice cette année. Les premières estimations sont attendues à 20h. 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Dans la majorité des villes, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 19h. Les métropoles comme Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Nice verront leurs bureaux fermés à 20h. Pour voter, il est nécessaire de justifier son identité, mais présenter sa carte électorale n'est pas obligatoire. Une pièce d'identité peut suffire, comme sa carte d'identité, son passeport, sa carte vitale avec photographie, sa carte d'invalidité ou encore son permis de conduire. Une manifestation ce dimanche à Tunis, manifestation à l'appel notamment du mouvement Ennahda mais aussi de l'initiative appelée Citoyens contre le coup d'État, un rassemblement pour exprimer le rejet de la décision de dissoudre le Parlement. Les familles des personnes tuées et blessées lors de la révolution tunisienne de 2011 seront indemnisées. Une annonce aujourd'hui de Kais Saied. Des dizaines de jeunes gens avaient été tués, des centaines d'autres blessés lors du soulèvement contre le pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali. Et cette affirmation du chef de l'État tunisien, Kais Saied, assure que le prochain Parlement reflètera la volonté des citoyens, affirmant que les prochaines élections se dérouleront selon un nouveau mode de scrutin. Le président tunisien qui a dissous l'Assemblée des représentants du peuple le 31 mars dernier, après avoir gelé ses activités le 25 juillet, a affirmé que les Tunisiens ont été déçus par l'Assemblée, mais que le prochain Parlement reflètera leur volonté avec sincérité et authenticité, contrairement, ajoute-t-il, à ce qui s'est passé lors des décennies écoulées. Le Kobiak, association culturelle basée dans les Bouches-du-Rhône, a pour projet un échange interculturel entre jeunes Libanais et Français autour de la lecture. L'association est partenaire du Centre Culture et Loisirs de Hermel, au Liban. Le Liban, où les bibliothèques sont très prisées dans cette période de crise économique. Les explications de Marie-Hélène Bastianelli, l'une des responsables du Kobiak.
Notre association est partenaire de plein de bibliothèques et de associatives ou publiques, ou dépendant du ministère de la culture libanais, depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, si vous voulez, on a des partenariats de longue durée avec eux, d'échanges de formation, d'accueil. Et là, on est sur plusieurs projets. Et malgré l'extrême difficulté, et j'avoue que moi, je vois ce pays dégringoler, c'est assez difficile et assez dur pour eux, très dur. Et malgré ça, il y a des militants qui continuent à se battre à la fois pour la vie quotidienne, mais à se battre aussi pour que la culture continue. On a plusieurs projets. D'abord, on a un projet qui continue depuis 4 ans, qui s'appelle la Caravane culturelle, qui est un projet qui se passe au Liban, et à Septèmes-les-Vallons, à côté de Marseille. Ce sont deux villes qui sont en coopération décentralisée, et donc que nous avons enfin, fait rencontrer. Et sa caravane se passe une fois par an. Ça, c'est le premier projet. On a un deuxième projet qui concerne l'accueil d'une conteuse libanaise qui va venir au mois d'octobre et qui a une tournée prévue dans notre région, mais aussi dans d'autres endroits. On a un projet d'une résidence de résidence entre trois conteurs, un conteur congolais, un conteur français et une conteuse libanaise en septembre pour une création d'un spectacle. Et puis, on a un échange culturel, interculturel entre des jeunes Libanais et des jeunes Français et jusqu'au mois de juillet. Voilà.
Alors, en quoi consiste justement ce projet interculturel entre jeunes Libanais et Français?
Nous sommes une association de militants pour la lecture. Bien évidemment, ce projet tourne évidemment autour de la question de la lecture, l'écriture. Donc ce projet, en fait, on a voulu travailler avec et construire avec eux un projet où des jeunes Libanais et des jeunes Français vont se former ensemble sur des pratiques d'animation autour de la lecture, pratiques d'animation auprès des enfants, et ensuite vont intervenir ensemble dans des centres de loisirs pour mettre en pratique ce qu'ils auront acquis. Et pouvoir ensuite, chacun dans son pays, continuer à le développer dans la bibliothèque ou de sa ville ou de son quartier. Donc c'est vraiment un échange de pratiques, à la fois une formation, à la fois un échange culturel entre ces jeunes qui vont travailler ensemble et donc évidemment vont apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Et puis après, ça va avoir un rebondissement puisqu'ils vont pouvoir intervenir et faire des ateliers auprès de la jeunesse autour de la lecture.
Et vous sentez un appétit pour la lecture en ce moment, malgré la crise économique, peut-être même encore plus en raison de la crise économique?
Alors écoutez, dans les bibliothèques libanaises, par exemple, si vous prenez les bibliothèques de Beyrouth, jamais, ils ont énormément de monde pour différentes raisons, parce que d'abord, il y a des jeunes, d'abord on peut tous acheter les livres, il n'y a pas de budget pour pouvoir acheter des livres, donc on a besoin de livres. Il y a l'accès à Internet, il y a l'accès à un lieu chauffé extrêmement important aujourd'hui où beaucoup de maisons n'ont pas été chauffées pendant l'hiver du fait du coût du fioul et du mazout. Les bibliothèques sont très très fréquentées, beaucoup plus qu'avant la crise et avant le Covid. Parce qu'il y a un manque d'argent, il y a un manque de tout, et les bibliothèques sont un havre à la fois de documentation, de paix, et aussi en même temps on peut emprunter, quoi. Donc moi, je pense que c'est il y a chez les jeunes et les enfants un vrai besoin qui monte au Liban.
Est-ce que la crise économique actuelle au Liban risque d'arrêter certains de vos projets entre le Liban et la France?
En tout cas, en ce qui nous concerne, nous cherchons toujours des financements pour pouvoir continuer les projets, et là on le fait pour l'échange interculturel. Du côté des Libanais, ils essayent eux aussi ils s'accrochent, on peut dire le mot comme ça. Je pense que ce qui pourrait nous arrêter, ça serait des problèmes sécuritaires, comme il y a pu avoir des fois des interruptions pendant les événements de la guerre de 2006, des choses comme ça. Mais en ce qui nous concerne, nous, notre partenariat, il a toujours continué. Et eux, ils sont toujours demandeurs. Maintenant, faut espérer que la situation ne se détériore pas encore plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour soutenir ce projet, si vous voulez soutenir ce projet, il y a un appel à financement participatif. Vous tapez Hello Asso Kobiac, donc Kobiac, COBIAC, et vous trouverez cet appel et vous pourrez participer, même tout petit ou grand, à cet échange de jeunes pour financer le projet.
Marie-Hélène Bastianelli, l'une des responsables du COBIAC, une association culturelle basée dans les Bouches-du-Rhône, elle répondait à Loïc Barrière. En Algérie, le journal francophone Liberté va bientôt cesser de paraître. Son actionnaire majoritaire, l'homme d'affaires Issa Drebrab, a décidé de dissoudre la société éditrice du média sans possibilité de reprise. Cela malgré les appels au sein de la société civile pour sauvegarder ce titre emblématique de la presse algérienne, un titre fondé en 1980. 1992. Une nouvelle opération de l'armée israélienne a eu lieu dans le camp de Jenin ce dimanche. L'agence de presse palestinienne Wafa fait état de 9 arrestations dans le village voisin de Yabad, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Hier, un raid a fait un mort et plusieurs blessés. Et vendredi dernier, le premier ministre israélien avait indiqué avoir donné carte blanche aux forces de sécurité pour agir après une série d'attaques qui a frappé Israël depuis le 22 mars dernier. Le 46e jour de la guerre en Ukraine, les autorités se disent prêtes à livrer une grande bataille dans l'est du pays. Un conseiller du président Zelensky a indiqué que l'Ukraine était prête à défendre le Donbass, région qui figure aujourd'hui comme l'objectif militaire principal de Moscou. Le président ukrainien qui appelle une nouvelle fois à un embargo sur le pétrole russe. Il a imploré l'Europe et le monde à agir selon des principes. Les catholiques et protestants célèbrent le dimanche des rameaux et la passion du Christ. Cet événement marque le retour du Christ à Jérusalem après sa retraite dans le désert. Il s'agit du 6e dimanche du carême et du début de la semaine sainte. La semaine sainte qui se terminera par la célébration de Pâques dimanche prochain. Le père Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, ancien directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France.
Le dimanche des rameaux, c'est la célébration où on évoque l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Il est monté à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. Il sait que malheureusement, certains cherchent à l'arrêter, mais il a pris la décision, malgré, on va dire, tous les risques, d'aller, comme chaque année, faire son pèlerinage à Jérusalem. Et en fait, quand il arrive à Jérusalem, la tradition nous dit, les textes saints, qu'il a demandé à ses disciples, à ses amis d'aller chercher un âne, un ânon même dans l'évangile de Luc, lu aujourd'hui, et il entre dans Jérusalem sur cet ânon, et en fait la foule le reconnaît et l'acclame. Et à cause de ça, j'irai, il y a justement cette tradition des rameaux qui fait qu'aujourd'hui, tous les chrétiens qui sont venus à l'église sont venus avec des rameaux soit de buis, soit d'olivier. Ils ont été bénis avant le début de la cérémonie et nous sommes tous entrés aujourd'hui dans l'église en chantant nos rameaux à la main pour cette grande célébration du dimanche des rameaux et de la Passion. Parce que c'est à la suite de cette entrée à Jérusalem, donc évoquée dans les textes et au début de la liturgie, que va être lue toute la passion de Jésus, c'est-à-dire les derniers jours de sa vie, sa mort, et l'évocation que, étant mort sur la croix, il est déposé au tombeau. Et donc c'est cet évangile, cette année de Saint-Luc qui a été proclamé et qui nous permet voilà de faire mémoire des derniers jours. Et ensuite, nous allons tous nous retrouver jeudi, qui s'appelle le Jeudi Saint, où là sera évoqué le dernier repas de Jésus qui devient dans ce qu'on appelle aujourd'hui la messe ou l'Eucharistie. Alors ça, c'est du côté catholique pour ce dimanche, mais nos calendriers avec nos frères orthodoxes et un léger décalage de, il me semble cette année, c'est d'une quinzaine de jours, donc cette cérémonie, eux, la feront dans quelques jours.
Et les protestants la célèbrent également ce dimanche.
Alors voilà, les protestants, maintenant on n'a pas tout à fait nécessairement le même rite, les mêmes chants, mais nos amis protestants célèbrent, eux, cette semaine, les derniers jours de Jésus et dimanche, la résurrection, sachant que dans l'Église de France, malgré nos différences de calendrier, il est devenu maintenant de tradition que dimanche prochain, au matin, à l'aube, au moment où le soleil commence à paraître, l'ensemble des chrétiens, orthodoxes, protestants et catholiques vont se retrouver dans les différentes grandes villes pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Cette semaine, c'est le Conseil pontifical pour les relations interreligieuses, le cardinal Ayuso, qui a adressé aux musulmans du monde entier son traditionnel message d'amitié, de fraternité spirituelle pour le ramadan et pour la fête de l'Aïd. Dans cette période où sur des chemins différents, le carême, le ramadan, la semaine sainte, il y a aussi Pessah, nos amis juifs, qui vont avoir la Pâque juive, c'est important, et dans les faits, c'est ce qui se passe, nous nous adressons des messages d'amitié, et on sait que dans le cœur des différents croyants, Il y a cette prière pour tout le monde, pour cette fraternité spirituelle.
Et on l'entend, ces fêtes religieuses sont des ponts entre les différentes composantes de la population.
Sont des ponts et vraiment, on le voit bien, je veux dire, au quotidien, dans les villages, dans nos quartiers, dans les immeubles. Voilà, on se dit bien plus spontanément, non seulement bonjour, mais à la limite, bon ramadan, bon carême, bonne fête de Pâques. Comme aujourd'hui, la procession des rameaux, par exemple, là où j'ai célébré, c'est dans une ville de 42 000 habitants, c'est à Bron, il y a le marché juste à côté, donc tout le monde est témoin de la joie des catholiques qui célébraient, et donc ça crée finalement une belle fraternité entre nous, en ces jours où c'est important de la signifier et puis de la vivre, en fait.
Le père Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, ancien directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Homero Marongiu-Peria, auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans » aux éditions de l'Atelier, extrait de cette émission.
L'islam s'est répandu sur une longue période dans différentes aires géographiques. Grosso modo, aujourd'hui, ce que l'on appelle le monde musulman, moi je préfère l'expression pays d'islam, pays où la majorité de la population est musulmane, couvre une aire géographique qui va du Maroc jusque la Chine. Et si on prend les minorités musulmanes, ben, il y en a sur toute la planète. Donc vous imaginez bien que les cultures sont très différentes, que les pratiques des musulmans sont très différentes, que les vêtements des musulmans sont très différents. Et nous, en France, on voit l'islam surtout par le prisme du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. C'est dû à notre histoire. On traverse la Manche et on va au Royaume-Uni, on va découvrir d'autres musulmans qui sont du sous-continent indien, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes pratiques religieuses que ce que l'on voit ici en France. C'est cela la complexité de l'islam aujourd'hui, et c'est ça que je voudrais introduire moi dans les discussions pour que les gens puissent débattre, mais avec des informations un peu plus précises que ce qu'ils ont habituellement.
Homero Marongiu-Peria, auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans » aux éditions de l'Atelier. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, sachez que Radio Orient diffuse les prières Tarawih chaque nuit du Ramadan à partir de minuit. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.